Energie.fr.
Culture Ville, Pascal Paradis.
Nous allons encore parler de peinture dans cette seconde partie de Culture Vive, mais avec un jeune artiste cette fois que vous avez rencontré à l'abbaye de Maubuisson, Bayaloche.
François Desraux, vidéaste, photographe et sculpteur, fasciné par le geste de l'artisan.
Mais auparavant, nous allons vous faire vivre quelques moments de théâtre avec Molière et Shakespeare réunis, quasi paxés, Sophie Écoué.
Ce n'est pas l'union sacrée, mais une rencontre au sommet, une rencontre improbable entre ces deux auteurs que presque un siècle sépare. La pièce s'appelle Être or not to be. Elle est écrite par Cécile Mbazoa-Abbé. Elle se joue au théâtre du Ranelagh.
Et enfin, grâce à José Marignon, nous allons tout savoir sur la nouvelle création du grand maître du théâtre québécois, Robert Lepage.
Le Dragon Bleu, c'est une fable moderne pleine de poésie sur l'homme et le temps qui passe, d'une beauté esthétique inouïe. Elle est signée par le visionnaire Robert Lepage, metteur en scène et comédien québécois.
Mais ça va être au moment où, sur votre sortie, quand vous allez payer avec les assiettes, parce qu'il faut voir la poupée qui rentre, qui passe.
Vous avez donc fait le voyage, José Marigno, jusqu'à Châlons-en-Champagne pour assister aux répétitions du Dragon Bleu qui est créé ce soir. Une création mondiale, on l'a dit, et c'est rare parce qu'en principe, souvent, en tout cas, Robert Lepage crée ses spectacles au Québec. Là, c'est en France. Est-ce que vous avez pu vous faire une petite idée du spectacle, de ce spectacle très attendu?
Petite idée, mais disons magistrale. On a eu droit à peine à deux extraits de 2 minutes et pas plus. Mais ce qui m'a vraiment marqué personnellement, c'est une danse traditionnelle chinoise, interprétée par Tai Weifo, surnaturelle et d'un exploit technologique épatant. En fait, sur scène, tous les mouvements de la danseuse rythmés par la musique sont reproduits en bleu sur une grande toile noire qui se trouve derrière elle, comme si c'était son auréole, en fait, comme si une étoile de mer l'accompagnait dans cette danse, disons, de la légèreté de l'être. C'est une belle fantaisie, un spectacle arc-en-ciel, très audiovisuel et intemporel. Cela fait déjà, c'est vrai, une vingtaine d'années que le quinquagénaire Robert Lepage bouleverse les codes de la réalisation du théâtre traditionnel par l'introduction de technologies modernes, tout en préservant la poésie et l'art du théâtre, évidemment.
C'est vrai que c'est l'un des maîtres du théâtre visuel. À Châlons-en-Champagne, avec Robert Lepage et sa comédienne Marie Michaud, reportage.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre train arrive en gare de Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, à 2 minutes d'arrêt.
Ok, Marie et Robert, quand vous voulez.
Ça s'appelle Le Dragon Bleu, et c'est une espèce de suite, si on veut, à la trilogie des dragons, parce qu'on avait fait une trilogie il y a plusieurs années, il y a 25 ans en fait, qui traitait du dragon vert, du dragon blanc et du dragon rouge, et maintenant c'est le bleu. Et la raison pourquoi c'est le bleu, c'est que c'est 25 ans plus tard, on retrouve des personnages qu'on avait laissés, entre autres un personnage qui s'appelle Pierre Lamontagne, qui est un Québécois qui, lui, à la fin de cette trilogie, partait pour la Chine, partait pour la découverte, si on veut, de sa Chine intérieure. Et Le Dragon Bleu, si on veut, raconte un petit peu les déboires de ce personnage qui habite en Chine depuis maintenant 15 ans, qui est galériste, qui assiste évidemment à tout ce mouvement exponentiel du marché de l'art contemporain en Chine, et cette Chine qui s'ouvre et qui s'ouvre maladroitement.
Marie Michaud, comédienne.
Ah bon, ben demande l'audition, hein, c'est moi qui t'invite.
Je comme ça, c'est...
Je joue le personnage de Claire Forêt, qui est une amie de longue date de Pierre Lamontagne. C'est une femme qui fait carrière dans le domaine de la publicité, qui a une agence publicitaire, en fait, et qui vient en Chine pour adopter une petite fille, parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, qu'elle est célibataire, et qu'il est moins une pour elle. Alors, elle vient ici pour chercher cette petite fille-là, et en même temps voir son ami.
La montagne. Pierre la montagne. Apprendre à écrire son nom chinois peut être une expérience extrêmement révélatrice. Si c'est
c'est un théâtre qui, pour une rare occasion, tombe un peu dans le psychologique. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a jamais vraiment exploré la psychologie des personnages dans notre théâtre à Ex Machina. On a surtout exploré la poétique. Bon, c'est quand même un spectacle qui va être très poétique. Mais on s'intéresse plus à la psychologie des personnages parce que les personnages sont plus matures. Le personnage de Pierre Lamontagne a 50 ans maintenant. C'est plus le jeune de 28 ans qui décide de partir en Chine. Donc, on essaie d'approfondir, si on veut, qu'est-ce que c'est l'exil, qu'est-ce que c'est pour un Québécois de se retrouver complètement aux antipodes. Et en fait, ça se veut, c'est une réflexion sur la maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité? La maturité comme artiste, mais la maturité comme être humain, tout simplement.
Quand je suis parti pour la Chine, j'ai compris que je ne reverrais probablement plus jamais mon père.
Je pense que ce qui est toujours intéressant, justement, dans le travail de Robert, c'est ce contraste-là. C'est qu'on suit une histoire, on s'attache à des personnages dont le destin est souvent bouleversé, des personnages auxquels le destin joue de mauvais tours, mais tout ça dans un contexte, un cadre très formel. Mais je pense que c'est ce qui est beau dans le travail de Robert, c'est ce mélange-là d'émotion et aussi d'esthétisme.
D'intégrer les nouvelles technologies, pas nécessairement celles qui sont accessibles, mais celles qu'on invente nous-mêmes maintenant, et on essaie de trouver la poétique dans ça. Alors, surtout dans un spectacle sur la peinture contemporaine, la calligraphie, on veut faire des gestes calligraphiques en direct. Alors, il a fallu développer un langage vidéo, tout un langage technologique pour pouvoir accomplir ces choses devant le public.
Il propose, mon Dieu, ça parle d'art dans le spectacle, mais c'est pas le propos principal. Mais c'est vrai qu'il y a de la projection, qu'il y a des choses qui s'approchent même de la bande dessinée, parce qu'on avait été inspiré par Tintin et le Lotus Bleu, parce que ça se passait à Shanghai. On n'utilise pas ces images-là, mais il y avait cette source d'inspiration-là qui a été pour nous deux le premier contact avec la Chine. C'est tout petit lorsqu'on a lu Tintin et le Lotus Bleu, et c'était une Chine dont on rêvait, qu'on imaginait extrêmement mystérieuse. Alors, ça me convient parfaitement.
Thank you very much.
Évidemment, je pense qu'on est venu se cacher un peu parce qu'on sait que Chalon est quand même un peu en retrait de Paris, en retrait des médias, justement, et en retrait des critiques. Alors, on essaie un petit peu de... On ne vient pas roder en province, c'est pas ça l'idée. On vient créer en province. Dans la concentration, et c'est ce qui manque un petit peu dans les grandes villes. C'est bien pour diffuser notre travail, mais pour créer, c'est très difficile.
Dragon bleu de Robert Lepage, donc création mondiale aujourd'hui et représentation jusqu'au 24 à la Comète, donc le théâtre de Chalon en Champagne. Puis le spectacle partira à Mulhouse, Toulouse et Salamanque en Espagne.
Apprenez, Ignard, que je suis à l'origine d'une pléiade de grandes œuvres. Vous avez devant vous le dramaturge et comédien titré au roi de France lui-même.
Comment vous nomme-t-on en France ?
Molière.
Quand Shakespeare rencontre Molière sur une musique façon Le Bon, la Brute et Le Truand, cela ressemble à une comédie, Sophie Écoué.
Cela donne véritablement une comédie enjouée, une farce enlevée avec des dialogues rapides, savoureux, une mise en scène un peu étrange, surnaturelle, fantaisiste, découpée comme ça en séquence par cette musique qui évoque parfois le western. On découvre un Shakespeare qui a de l'humour, un auteur qu'on croyait un peu sinistre, n'ayant écrit que des drames,
mais
si,
non,
drames
y a
amoureux,
de
le grand
de comédie.
Public, oui, le grand public.
Il avait la verve verte, Shakespeare.
Ah, oh, ben je vous sens très shakespearien là, cet après-midi.
Être ou ne pas être.
Ah, mais c'est exactement ça. Et c'est une rencontre un peu improbable entre ces deux auteurs que presque un siècle sépare finalement. C'est en fait un prétexte pour cette jeune auteure de questionner sur l'acte d'écrire. Écrire ou douter, écrire ou ne pas écrire, c'est peut-être le sous-titre de cette pièce. En deux mots l'histoire peut-être, Pascal.
Oui, dites-moi, parce que quand même un siècle les sépare, donc il faut bien qu'il y ait un prétexte pour qu'ils se rencontre.
Alors, nous
on est au paradis.
On est au paradis, c'était ça le côté surnaturel dont je vous parlais tout à l'heure. On est entre deux, dans l'espace, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est une convocation dans un lieu, dirons-nous, entre le paradis, entre la terre et le ciel. Alors, nous sommes en Angleterre, et à l'initiative de la reine, nos deux auteurs vont concourir à l'écriture d'une pièce de théâtre pour gagner les plus hautes marches de la gloire et devenir ainsi le maître d'œuvre du théâtre du Globe de Londres. Et nous, spectateurs, donc on assiste à quoi ? En coulisses, à ces moments d'inspiration qui devraient descendre et posséder les écrivains. Et là, dans le cas de Molière, eh bien, auteur pourtant aguerri, les choses ne se passent pas très très bien. Il est en panne, en mal d'inspiration, dans un état très irritable qui va le pousser, tout grand qu'il est, à devenir très petit, c'est-à-dire à utiliser des méthodes pas très catholiques pour s'emparer du manuscrit de son rival. Donc,
De la perfide Albion, non? l'auteur est anglaise?
Non, pas du tout, elle est camerounaise. Elle a choisi son camp. Donc, en face de Molière, on a un William Shakespeare, donc un jeune écrivain, écrivaillon dans le texte, qui découvre tout juste l'écriture et qui veut prouver sa témérité en écrivant un très beau texte et gagner ainsi ce concours et avoir les grâces de la reine. C'est un duel, une sorte de joute oratoire qui s'engage entre les deux hommes et seul le destin les tirera d'affaire en confrontant en fait leurs personnages mythiques. On voit Roméo revenir, refaire l'histoire de Juliette, on voit Sganarelle qui est du côté de son maître et qui joue, qui chipe. C'est très... On rit de ces grands finalement qui utilisent des méthodes un peu mesquines pour se sortir d'affaires d'écriture. C'est ça qui est très intéressant. Alors ce qui est aussi qu'on peut dire, c'est qu'on rentre vraiment dans l'histoire, ça se passe très bien, on pense un moment très agréable. L'écriture très moliéresque de cette jeune femme, assez érudite, parfois un peu poussiéreuse on peut dire, côté un peu appliqué avec des rimes plates, ne gêne pas trop, on est dedans, on vit la pièce jusqu'au bout. Et elle a commencé à écrire cette pièce il y a déjà 18 ans, elle avait, à l'âge de 19 ans, et elle a laissé maturer la pièce pendant 8 ans, et c'est devenu cette pièce Être or Not To Be.
Je pense que cette pièce, elle est très personnelle parce que c'est un peu par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Parce qu'au départ, je me suis inspirée de pas mal de choses. J'ai regardé beaucoup de films à costume pour m'imprégner de la façon dont on parlait à une certaine époque. J'ai relu certaines œuvres de Molière, celles de Shakespeare. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut aller à la quête de tout ce qu'on voit. Et j'aime cette époque parce que c'est déjà, j'aime beaucoup le côté vestimentaire, hein, toutes ces belles robes de femmes. Mais en plus de ça, c'est le côté aussi le beau parler. J'aime beaucoup le beau parler français de l'époque. Je trouve ça très très éloquent et c'est beau. Mes amis, quand ils l'ont vu, ont dit ça, c'est tout toi. Ma mère m'a dit la même chose. Là, j'étais reconnue dans le message que tu transmets. À un moment, c'est continuer à écrire, continuer à rêver. Parce que bien sûr, moi, quand j'ai commencé à écrire jeune, on se moquait un peu de moi. Bon, tu crois que ça, qu'est-ce que ça va donner ? Mais j'ai continué. Un pour moi et deux dans l'espoir que qui sait un jour. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Comme quoi, il faut rêver.
Écrivez-vous.
J'écrirai.
Soit. Vous parlez congrûment, je veux bien vous inscrire. Comme diable, cela ne se peut. Ce garçon n'est qu'un enfant. Il ne sait écrire au-delà de son nom. Pis que cela. Il griffonne, il anocle.
J'en ai inscrit certains qui faisaient bien moins que cela.
Et comment vous nomme-t-on ?
William Shakespeare.
Être or Not To Be, donc c'est la première pièce de Cécile Bazoa-Abbé, et visiblement vous nous la conseillez. Hein,
absolument, Sophie, il faut aller voir.
Le bonheur langue. Se lisait dans vos yeux.
Absolument, j'ai beaucoup adoré.
Beaucoup adoré.
J'ai adoré.
Au théâtre.
C'était un pléonasme, mais ça dit bien.
Ça dit bien, absolument. Donc, Être or Not To Be au théâtre du Ranelagh jusqu'au 4 juin. Au rayon découverte maintenant, un jeune artiste français, François Desraux, qui n'a encore jamais fait d'exposition dans un musée à Paris, mais que l'on peut voir en province, et notamment à l'abbaye de Maubuisson, enfin c'est plus exactement dans la grande périphérie de Paris, avec une exposition intitulée « Goodbye ». Alors, Baya Louache, vous êtes allé à lui, dites-nous-en plus.
Alors François Dérault est un artiste français d'une quarantaine d'années qui a passé près de la moitié de sa vie à sillonner le monde pour en saisir au vol la poésie du quotidien et du banal. Et c'est cet intérêt à la fois plastique et politique qu'on retrouve dans ses sculptures.
Politique. Pourquoi vous dites politique ?
Alors je dis politique parce qu'en fait les propositions artistiques de François Dérault présentent une dimension politique dans la mesure où le voyageur qu'il est choisit de flâner dans des pays qui en eux-mêmes sont porteurs d'une forte charge politique. On parle de l'Ukraine, de la Turquie, de la Moldavie, de la Géorgie, de la Roumanie, de l'Algérie et puis aussi de ces deux grandes puissances émergentes que sont l'Inde et la Chine. Et on découvre donc tous ces pays à travers le travail pénible de leurs artisans installés souvent dans la rue, des scènes qui sont devenues étrangères à nos sociétés dites avancées.
Donc actuellement, François Dérault déploie, si je vous ai bien compris, 5 nouvelles installations à échelle monumentale dans un lieu qui est assez réputé pour l'art contemporain, même si à l'origine c'est une abbaye du XIIIe siècle, c'est l'abbaye de Maubuisson, donc dans la grande région parisienne.
Et c'est d'ailleurs l'un des charmes hein, de l'exposition Goodbye de François Dérault, puisque à savoir que la façon dont il s'approprie ces lieux, ces 5 espaces, 5 volumes, dans lesquels il met en parallèle son rapport à l'espace et son rapport au monde. Donc par exemple, dans la grange à Dîmes, qui est comme une énorme boîte noire, François Dérault a aligné sur la longueur du volume 10 écrans géants, sur lesquels sont projetés en boucle 10 films d'une dizaine de minutes chacun. Et cette installation vidéo s'appelle 78 suites, en référence aux 78 séquences filmées par l'artiste. Ce sont des séquences glanées au fil de ses voyages et qui mettent en scène les gestes répétitifs des travailleurs manuels. On peut voir des mains qui pétrissent des briques en terre, d'autres qui trient des perles, qui fabriquent des petites guirlandes argentées, qui brodent un sari indien, d'autres encore qui massent des pieds, qui préparent des nouilles chinoises, qui tressent du raffia ou qui fabriquent des colliers de fleurs.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté exotique quand même, vous voyez, genre guide touristique ?
Pas du tout, ni exotisme, ni pittoresque, mais plutôt un souci constant de sobriété, de réalisme. Et c'est dans ce même esprit que François Dérault a investi la salle dite des religieuses avec une installation de 101 photographies prises en Inde et en Chine. Et toujours cette mise en scène, des gestes et des objets de l'artisan, en cadrage rapproché. Mais là, la petite originalité, c'est que les photos sont posées à même le sol, ce qui oblige ou invite le visiteur à avoir un regard actif dans sa déambulation. Il doit chercher le bon point de vue parce que les photos sont disposées un peu dans tous les sens, ce qui fait écho à la démarche même du photographe quand il voyage.
Donc c'est de la photo, mais c'est aussi de l'installation parce qu'il utilise donc ces grandes salles de prière, ces salles dites des religieuses. Il va même jusque dans les latrines de l'abbaye, c'est ça ?
Il y a mis une installation vidéo qui s'appelle Prise, et qui elle aussi fait écho à l'installation précédente, puisque la 101e photo de la salle des religieuses, qui s'appelle Cheval et Bassine, se prolonge avec cette vidéo, une vidéo tournée en Chine, qui fonctionne comme un geste de la main, avec un va-et-vient de la caméra entre un petit cheval en onyx posé dans une bassine, et les visages des artisans installés autour. Et le film se termine avec un arrêt sur image, sur l'un des artisans, qui pose son index sur son front, un geste que François Dérault a conçu comme un symbole de la pensée.
Et donc ça fait un petit geste de la main, quand même. Bye bye, mais l'exposition en fait s'appelle Goodbye. Merci Baïa, Goodbye de François Dérault jusqu'au 1er septembre et c'est à l'abbaye de Maubuisson. Merci à tous, Culture Vive avec Sébastien Gorin, réalisation Nicolas Spigard, Roland Kemner à la technique, la prise de son de l'entretien avec Valérie Adami dans la première partie de l'émission était signée Jean Dufa. L'écrivain togolais Sami Tchak sera notre prochain invité pour son roman Fille de Mexico, encore des voyages en perspective. Bien à vous, à demain.
Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouverts sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. expulsez-moi. Quand les bouches du métro, expulsez-moi. Vomissent des troupeaux, expulsez-moi. Il était une fois.